c'est une aventure exceptionnelle à chaque fois. Hein. Même quand elle se finit pas en happy end, hein, c'est une aventure fantastique. Moi, on me dirait, tu peux refaire les jeux, mais tu vas te rater. J'y vais direct.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que comme moi, vous êtes à fond devant les Jeux Olympiques d'hiver et que vous vibrez devant tous ces sports fascinants, parfois effrayants ou encore amusants. Les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'hiver ou d'été, sont source d'émotions totalement folles et ce n'est pas mon invité du jour qui dira le contraire, car les Jeux, elle les connaît et les adore. Ophélie David a commencé le ski alpin dans sa jeunesse avec talent, puis décide de s'orienter vers le ski cross après avoir donné naissance à sa fille. Ophélie évoluera 15 ans dans cette discipline qu'elle quittera après avoir fêté ses 40 ans et deviendra même championne du monde. Aujourd'hui, elle est consultante pour la télévision et vit donc encore les Jeux de très très près, mais de l'autre côté. C'est une vraie chance d'avoir pu échanger avec elle sur les Jeux d'hiver, de ce que cela représente et de la façon, non sans difficulté, dont on passe de sportive professionnelle à consultante. On a bien sûr également parlé de cette belle équipe de France et de la différence de traitement entre hommes et femmes dans le sport. Si vous vous intéressez un peu à ces jeux, alors foncez écouter cet épisode. Salut Ophélie.
Salut Cléo.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien. Bien contente d'être avec toi.
Et ben, je suis très contente aussi et d'autant plus contente parce que c'est vrai qu'on est en plein dans les jeux. Donc j'imagine que c'est une période assez intense pour toi et du coup de pouvoir prendre ce petit temps pour répondre à mes petites questions, j'en suis d'autant plus ravie.
Bah écoute, c'est vrai que c'est intense, mais c'est surtout intense pour les athlètes, tu vois. Et du coup, non, c'est un plaisir d'être avec toi en ligne aujourd'hui.
Ma première question, forcément, parce que là, on est en plein dans l'actualité, en plein dans les Jeux, ça te fait quoi, du coup, parce que je crois que les dernières Olympiades, tu les as faites, tu étais sur place.
Absolument.
Tu étais olympienne. Là, c'est la première fois que tu les commentes. Qu'est-ce que ça te fait? Quelle sensation ça te fait d'être derrière le micro cette fois-ci et plus en tant qu'athlète athlète pro?
Bah écoute, ouais, je t'avoue que c'est un peu bizarre parce que c'est aussi la plupart des athlètes avec qui j'étais au jeu de Pyeongchang. Donc, c'est des copains, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et là, en plus, on est décalé, on est loin. C'est vrai que, bon, j'ai fini ma carrière, hein, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, j'ai pas de nostalgie, tu vois, c'est un choix que j'ai pris moi d'ailleurs, ce qui est un luxe des fois en sport. Ouais, c'est étrange parce que j'ai l'impression que j'ai un bout de moi qui est un peu là-bas et pourtant je suis ici, tu vois, mais je crois que c'est mon cœur qui est là-bas en fait.
C'est ça, physiquement tu es présente à Paris, mais alors tout le reste est à Pékin.
Ouais, vraiment à leur côté et puis tu vois, des fois je me dis, ah ouais, c'était bien, on s'était croisés après cette épreuve là, on avait bien discuté, là tu vois, si on se croisait, je lui dirais ci, je lui dirais ça, enfin voilà, c'est vrai que ouais, c'est des gens que j'apprécie, au-delà que ce soit des athlètes et des sportifs incroyables, c'est aussi des personnes, des hommes et des femmes que j'apprécie énormément.
Bah justement, du coup, je le disais, donc c'est la première fois que tu commentes. Comment on fait pour pas se laisser déborder par ces émotions? Tu le disais, c'est pour la plupart des personnes que tu connais, que tu apprécies. Est-ce que c'est compliqué déjà de réussir à être à peu près neutre? Alors, on ne vous demande pas d'être neutre non plus, hein, c'est aussi le principe du commentaire.
Mais tout ce que j'allais dire, je crois que je ne le suis pas du tout.
Comment tu vis ça? Je crois que tu commentes quatre épreuves, donc c'est beaucoup.
Ouais.
Ouais, comment tu le vis, comment tu gères ces émotions?
Écoute, j'essaie de me dire que je suis en train de parler à des gens, en fait. Donc voilà, déjà je me dis je parle pas à mes potes, je parle pas à ma fille, on regarde pas la télé ensemble. Donc je me dis, tu t'adresses quand même à des personnes qui sont elles devant leur écran, qui ont besoin de ton éclairage pour encore mieux vivre cet instant et cette expérience olympique à elles. Donc, j'essaie de bien garder ça en tête. Mais après, je dois t'avouer que par moments, les émotions, elles sortent toutes seules. Et je pense que c'est aussi peut-être ce que le public aime bien, c'est que c'est de l'humain avant tout. Quand on vibre, quand on trépigne, quand on n'a plus de voix, moi, je me tords les doigts. Ça se voit pas, mais j'imagine que ça doit quand même un petit peu s'entendre dans le timbre de la voix. Enfin, et je pense que pour le coup, ça fait partie quand même aussi de cette expérience olympique des téléspectateurs.
C'est clair. Et effectivement, je pense que plus vous vibrez aussi et plus on vibre. Mais c'est vrai que tu vois, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, oh là là, quand on a l'habitude en plus de connaître ces émotions. Quand on est en train de, quand on est sur la piste, quand on est enfin c'est des Jeux Olympiques, et du coup de vivre ça de l'extérieur et de se remémorer aussi ces émotions-là, ça doit juste être tellement bizarre et compliqué.
Ouais, après tu vois, si c'est des émotions super positives suite à une médaille, à une victoire, tu peux, je pense, te permettre de la laisser sortir. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai commenté les bosses. Ouais. Et deux fois, il y a quand même des émotions très fortes. Ouais. La première avec Benjamin, qui est plutôt un sentiment d'injustice. Ouais. Mais bon, on le dit un petit peu, mais on n'a pas non plus à prendre part à... On n'a pas à juger les juges, en fait, parce que en acceptant que ce soit un sport jugé, on a signé en bas de la feuille, on accepte le règlement, donc les règles du jeu. Et puis derrière, tu as Perrine qui échoue au pied du podium. Et moi, ce qui me fend vraiment le cœur, c'est que je la vois triste, ouais. Absolument comme tout le monde. Mais surtout, je me dis, punaise, elle ne s'est pas fait plaisir.
Ouais. Ah oui, vraiment ?
Tu vois, parce que... Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et du coup, pendant les commentaires, tu vois, j'ai essayé justement de gommer cette impression, de changer mon optique. Mais j'avais vraiment, moi, ce ressenti très fort où je me disais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas comme d'habitude. D'habitude, c'est quelqu'un de tellement pétillant, tellement solaire, rayonnant. Ouais. Et là, j'avais l'impression qu'elle était comme délavée, tu sais. Et j'avais beaucoup de chagrin parce que je me suis dit, arriver 4, ça arrive et elle a tout donné ce jour-là, il n'y a pas de problème. Et le résultat, il faut l'accepter. Mais je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'elle se soit fait plaisir.
Et tu penses que c'est lié à la pression, le fait que, du coup, comme elle était...
Non, je ne sais pas.
Ouais, c'est quand même... C'est...
Ouais, je sais pas. Il faudra lui demander, ouais. Et puis peut-être que je me trompe totalement aussi, tu vois. Mais moi, de ce que j'ai ressenti en la regardant, c'était ça. Et typiquement, pendant le commentaire, je me suis dit il faut pas que je le fasse transpirer en fait. Il faut que je garde ce sentiment, cette impression pour moi. Typiquement, dans le canapé avec ma fille, je lui aurais dit, tu vois, Lilou, moi je ressens ça, toi, enfin. Voilà, c'est une appréciation trop personnelle et puis qui n'avait pas sa place à ce moment-là, je pense. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut un minimum de pudeur, en fait, dans ces instants-là.
Ouais, ce qui doit effectivement pas être facile à faire parce que j'imagine que les commentaires qui sont profondément personnels, tu dois avoir tellement envie de les sortir et de dire tout.
J'avais surtout envie de la prendre dans mes bras, là, à ce moment-là, tu vois, de dire, allez, c'est pas grave, tu vas voir.
C'est vrai que pour faire un lien aussi, toi, avec ta carrière, la quatrième place, c'est une place que tu connais parce que c'est la place que t'as fait à Sochi. En 2014.
Absolument.
Donc, tu connais cette gestion de la déception aussi. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que tu comprends, toi, du coup, en 2014, quand tu fais cette quatrième place, comment tu gères la déception, en fait ?
C'est assez violent parce qu'en fait, tu vis le truc et à peu près, sans te mentir, moins de 10 minutes après, tu as des caméras et des micros qui te sont tendus. Ouais. Tu vois, donc il y a aucune zone tampon, tu vois. Moi, je me rappelle Sochi, je suis sortie de la raquette, il y a eu le test matériel, Donc, je suis passée par l'attente officielle de la FIS, là. Ça a dû durer, allez, 5 minutes, même pas. Mon coach m'a donné ma veste et je suis rentrée dans le couloir médiatique, direct.
D'accord.
Tu vois, l'espèce de corridor, là. Tu commences par les télés, en plus. Ça fait télé, radio, presse écrite, dans l'ordre. Et t'as à peu près, comme ça, une centaine de mètres, en fait, à parcourir pour sortir de la zone de la course. Et donc, tu commences direct, boum, t'as une caméra.
Ouais.
C'est hyper violent. Ah ouais. Tu sais qu'il y a ta famille, tes amis, des gens qui te supportent et tout, qui sont derrière et leur télé, et t'as pas envie d'en rajouter une couche non plus. Donc, t'essaies de faire bonne figure. Et puis, c'est vraiment dur parce qu'on te demande de faire un rewind rapide. Et d'analyser un truc que t'as pas encore fini de
d'ingérer,
de ressentir,
de
gérer. Donc voilà, c'est violent, mais en même temps c'est assez curatif parce que c'est comme, j'imagine, quand tu te déboîtes une épaule, on la remet à chaud. Il y a un peu de ça, je trouve.
C'est une belle image.
Parce que du coup, en fait, les médias t'obligent à tout de suite faire un pas de côté et de regarder, de prendre de la hauteur et de sortir de ta petite bulle. Et certes, c'est pas simple, mais c'est assez, c'est déjà le premier pas de la résilience, tu vois. C'est déjà un premier truc. Et c'est vrai que les émotions se bousculent vachement. Alors moi, je suis quelqu'un qui met pas de masque, donc les gens m'ont vu pleurer, comme on a vu d'ailleurs Perrine pleurer.
Ouais, enfin, tout à fait.
C'est trop dur parce qu'en fait, franchement, c'est des émotions. C'est déjà le sport, c'est de l'émotion en barre, mais en plus les jeux, c'est un catalyseur et c'est tout démultiplié aux Jeux Olympiques. Donc c'est dur à contenir, mais tu vois, des fois, il y a des jeux, et ça se voit, il y a des sportifs qui mettent une carapace et blah, tu sais, ils bloquent tout. C'est chacun après réagit, on est tous très différents, hein, donc mais c'est vrai que c'est une sacrée épreuve.
Ouais, j'imagine.
Après un échec.
Ouais, bah, j'imagine bien. En plus, c'est vrai que toi, des Olympiades, t'en as fait quand même plusieurs. T'as eu une carrière assez longue. Au final, on s'habitue jamais à gérer ça. Même toi, d'une Olympiade à l'autre, l'émotion, elle est toujours la même. C'est-à-dire, on s'habitue pas, finalement, j'ai envie de dire.
Non, tu t'habitues pas et c'est toujours aussi joli à vivre. Et puis, on évolue, hein, donc on n'est jamais la même personne que les quatre ans. C'est ce qui est chouette d'ailleurs, c'est qu'en fait, tu arrives avec une certaine expérience, mais t'es plus non plus cette personne. Tu vois, donc en fait, il y a cette évolution constante, ce besoin de se réinventer aussi, d'évoluer du coup aussi dans ta préparation, dans ta manière d'aborder les jeux, parce qu'en plus t'as pas les mêmes cartes en main, hein, donc c'est une aventure exceptionnelle à chaque fois, hein. Mais même quand elle se finit pas en happy end, hein, c'est une aventure fantastique. Moi, on me dirait tu peux refaire les jeux, mais tu vas te rater. Mais je dis,
j'y vais direct.
Ah ouais, j'y vais direct. Ouais, même si je sais que je vais me prendre un coup de pied aux fesses et que ça va être dur, mais c'est tellement enrichissant et c'est tellement une belle énergie quand t'es là-bas et c'est des moments extraordinaires. Donc en fait, sans être maso, j'y retournerai, je te jure.
Franchement, je crois que je peux comprendre. Mais d'ailleurs, pour revenir sur ta carrière, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as eu une carrière très longue, une longévité qui est assez rare finalement aussi dans le sport en règle générale et encore plus dans les sports d'hiver, qui sont des sports qui sont quand même assez traumatiques. Comment toi, tu as géré ça? Comment tu as géré ta carrière sur le long terme pour être toujours présente? On a l'impression limite qu'au fur et à mesure de ta carrière, alors tu as commencé par le ski alpin, je ne l'ai pas précisé, et après tu es allé sur le ski cross. Et on avait l'impression finalement qu'au cours de ta carrière, plus tu prenais de l'âge, plus tu devenais performante, un peu comme Johan Claret, tu vois, ça pour lui, c'est vraiment, c'est l'impression que ça te donne. Comment toi, t'as géré toute ta carrière, en fait?
En fait, si tu veux, j'ai appliqué qu'une seule et simple recette, c'est que je me faisais plaisir.
Ouais.
C'est aussi bête que ça. En fait, et j'adore toujours skier, mais j'adorais absolument vivre les émotions du ski cross mais aussi physiquement, ce que le ski cross m'a apporté. Tu vois, les sensations que j'avais sur la piste, dans les airs, avec la proximité de mes adversaires, etc. J'étais complètement addict. Donc, c'était pas compliqué, en fait, de remplir une saison parce que juste, ça me remplissait tellement de bonheur. Ouais. Et j'étais tellement heureuse de faire ça que je trouvais pas ça compliqué ou lourd ou d'aller à l'entraînement ou tu vois. Enfin, et si ma motivation elle avait été que de gagner des médailles, peut-être je me serais essoufflée. Mais là, ma motivation elle était vraiment de vivre intensément ce sport que j'aimais et que j'aime toujours d'ailleurs, mais avec une intensité très forte et quelque part, les médailles, les trophées venaient matérialiser ça, tu vois. Mais c'était pas absolument, je voulais la médaille. En fait, je voulais vivre ces instants forts, donner le meilleur de moi-même. Et puis, après, les médailles, les trophées, les incarner, tu vois. Donc, je prenais le truc un petit peu peut-être à l'envers, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été ma manière de vivre ma carrière. Et c'est pour ça que je te dis, oui, les moments, les échecs, les moments difficiles, bon, faut les absorber, faut les accepter, faut se réparer, faut repartir. Mais en fait, ils font complètement partie de ce gros chapitre de ma vie, 15 ans quand même, où en fait, je me suis épanouie, régalée, je me suis découverte. J'ai lié des amitiés qui j'espère dureront jusqu'à la fin, tu vois. Et en fait, c'était un cadeau incroyable, un moment d'enrichissement inespéré.
Et quand on t'écoute dire ça, du coup, il n'y a pas une sorte de manque quand même à pu être dans cette spirale de bonheur ?
Écoute, oui, mais alors après, j'ai quand même été rattrapée par mon âge. Pas que mon corps soit complètement déglingué, mais je sentais que ça me demandait de plus en plus d'efforts d'être au niveau. Et je sentais que voilà, c'était l'heure, tout simplement, comme quelque chose, comme c'était la même évidence, en fait. Donc, comme je te le disais en début de podcast, là, c'était vraiment je me suis sentie très chanceuse de décider de mon arrêt de carrière. C'est pas le cas pour tous les sportifs. Souvent, c'est quelque chose de subi. Là, ça a été quelque chose de choisi. Et puis, je me suis quand même, je m'étais quand même préparé une petite sortie parce que je savais que ça allait être un gros changement. Et du coup, l'hiver d'après, donc c'est pas anodin, tu vois, j'ai fait un hiver blanc derrière. Je suis partie avec mon sac à dos en Amérique du Sud pour 6-7 mois. Donc, je me suis vraiment coupée, éloignée. Je suis allée dans un endroit où j'étais plus du tout dans ma petite planète ski, neige et compagnie. Et ça a été très efficace pour vraiment clôturer ce chapitre. Et puis ensuite, je me suis dit que j'allais jamais plus retrouver la même adrénaline et les mêmes choses, mais qu'il fallait que je me donne d'autres challenges, d'autres défis. Et que par contre, il faudrait que je sois capable de trouver la même, je dirais, source d'épanouissement, même si elle est différente.
Et ça, tu considères que tu l'as trouvé à l'heure actuelle ?
Écoute, ouais. Alors, en fait, déjà, je me suis dit, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est dans mon équation d'être bien, d'être heureuse ? Qu'est-ce qui est au centre de cette équation ? Donc, j'ai fait la liste. Et en partant de là, en fait, si tu veux, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'arrive à me construire ma vie autour qui va me permettre de remplir cette équation, quoi. Et c'est un peu bordélique, mais j'y arrive.
T'essayes de remplir du coup les petites cases au fur et à mesure.
Ouais, en tout cas de faire des choses qui correspondent à mes valeurs et à des choses qui des valeurs qui me rendent heureuse et pour l'instant, franchement, ça va. Ouais, franchement, je suis contente.
Parce que c'est vrai que souvent, et pour en avoir discuté avec d'autres sportifs et sportives, c'est l'après-carrière, c'est toujours un moment qui est difficile à gérer parce qu'on part de son sport qu'on a pratiqué pendant des années, qui nous a procuré des émotions multiples et après aller sur autre chose derrière, c'est toujours compliqué. Effectivement, ouais. Comment on peut gérer ça?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ah bon, est-ce qu'on nous prépare finalement aussi à ça? J'ai l'impression que c'est pas forcément le cas.
Bah, t'essaies peut-être de te préparer, mais de toute manière, une fois que t'es dedans, tu te rends compte qu'il y a des choses que t'avais pas vraiment anticipées. Moi, franchement, ce long voyage m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, si tu veux, quand t'es sportif, les gens te voient en tant que sportif avec ton palmarès, ton truc. Et c'est plein de bienveillance, mais ils t'enferment dans ce costume. Mmh. Et alors que toi, tu sais que ta carrière est finie, elle est derrière, et tu as besoin de le poser, ce costume. Ouais. Et tu as besoin, tu vois, d'en mettre un autre, ou en tout cas d'avancer. On ne peut pas rester coincé comme ça dans le passé. Et souvent, et c'est là où c'est super compliqué, c'est parce qu'en fait, c'est plein de bienveillance et les gens, avec gentillesse, en fait, te coincent. Ouais. Tu vois, dans un petit morceau de ta personnalité et de ta vie. Alors que toi, à ce moment-là, je pense que ce dont tu as besoin, c'est au contraire d'aller explorer toutes tes autres facettes, d'explorer tes autres qualités et de te relancer des autres défis. Mais à chaque fois, tac, on te ramène, tac, on te ramène. Mmh. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Et tout ça est fait avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est hyper compliqué, tu vois. Le fait de m'être barré, tu vois, loin des yeux, loin du cœur, quand je suis revenue, quelque part, tout le monde avait un peu... pas tourner la page, mais un petit peu. Et du coup, mon image de sportive et mon palmarès, il me colle plus à la peau. Il me sert, c'est un peu un sésame. Ouais. Magnifique, hein, génial.
Une jolie porte d'entrée.
Pour encore... Ouais, carrément. pour vivre des super expériences. Typiquement, là, commenté avec Eurosport. Mais si tu veux, les gens ont compris que ça y est, c'était... Enfin, il y avait autre chose aussi, tu vois. Ça a été une solution plutôt pas mal, que je n'avais pas trop anticipé, qui s'est faite un peu comme ça naturellement. Et je suis assez satisfaite du truc, en fait.
Bah, tant mieux, c'est le principal, que ce soit une situation qui, toi, t'épanouissent, quoi. Et est-ce que tu dirais d'ailleurs que c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais que c'est plus compliqué pour les femmes athlètes la reconversion que pour les hommes?
Alors là, bonne question. Souvent, les femmes, très souvent, les femmes s'arrêtent pour être maman.
Ouais.
Donc là, c'est un peu un super looping galipette triple loutspiqué quand même.
C'est sûr.
Je sais pas si c'est que la reconversion qui est plus dure pour les femmes.
tu soulèves un point là.
moi, j'arrive d'un milieu qui est ultra masculin,
ouais.
Le monde du ski, de la montagne. Et pour autant, c'est pas du tout un univers macho. Mmh. Parce que, voilà, quand tu te prends du moins 20, c'est moins 20 pour tout le monde. Enfin, il y a un côté...
un pied d'égalité, un peu.
Ouais, un pied d'égalité face à la nature à laquelle on se frotte. Et franchement, ce monde masculin, moi, je l'ai jamais trouvé macho. À chaque fois que j'ai été confrontée, finalement, à des signes de misogynie, c'était quand je poussais la porte des entreprises, en fait. Où là, des millions même d'employés, il y avait une différence sur les primes, sur les salaires, sur l'argent gagné. On me disait, oui, mais alors attends, vous êtes 30 au départ. Alors je disais, oui, on n'est que 30 au monde à être capable de faire ça. Ouais, non, mais il n'y a pas de concurrence. Alors je dis, ok, va voir les vététistes de Rampage qui sont 6 au monde à prendre le start. Et tu vas leur expliquer qu'en fait, tu vas leur donner que 100 balles parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas pareil. D'où c'est pas pareil. Enfin, tu vois, et là, c'était vachement compliqué parce que c'est vrai que c'était des codes que je ne maîtrisais pas et auxquels je me suis heurtée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'était le quotidien de pas mal de femmes. Et, c'est un... et c'est sûr que les mentalités changent et les nouvelles générations sont bien plus égalitaires dans leur regard les uns envers les autres. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de fluidité entre les genres.
Ouais.
Et tout ça, je pense, va vers le sens de l'égalité. Mais voilà, ouais, j'imagine du coup que c'est plus dur une reconversion quand t'es une femme, mais c'est juste en adéquation avec tout ce qui se passe ailleurs dans la société.
Parce que c'est vrai, du coup, tu levais ce point-là, mais souvent, dans beaucoup de disciplines, malheureusement, même si ça évolue, heureusement, mais les femmes ont aussi peut-être en carrière un peu moins de visibilité. C'est vrai que dans les sports d'hiver, alors peut-être moins maintenant, des Tessa Worley, des même Tess Ledeux, les Perrine Lafont, etc., qui ont effectivement attiré la lumière, font que, comme vous êtes aussi moins identifiés, peut-être que bah, c'est plus compliqué aussi par la suite, en fait. C'était aussi là où je voulais en venir, entre guillemets. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, t'as raison. C'est vrai que même s'il y a de beaux progrès, on n'est pas encore, on n'est pas encore à égalité des retransmissions du sport féminin. Après, ouais, moi encore une fois, ma discipline, coup de bol, hein, elle est mixte, ouais. On peut dire, hein, parce qu'on est sur le même créneau télé, on est dans le même parcours, donc en fait, on rentre dans le même contrat d'image. Mmh. Donc coup de bol, mais c'est vrai que sur d'autres disciplines, sur d'autres sports, on voit quand même une différence. Et bien sûr, ça a des répercussions parce qu'aujourd'hui, enfin, ça se saurait si ta notoriété se construisait que sur des résultats, ça se saurait.
Bien sûr.
En fait, une notoriété, elle se construit sur ton image. Mmh. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont ultra titrés et complètement inconnus. Ouais. Quoi. Donc, la valeur sportive, elle rentre en compte, certes, mais ce n'est pas 100% du truc. Il faut arrêter de croire ça. Quoi. Et alors, tu vois, s'il y avait aussi une différence assez flagrante, je trouve, entre les hommes et les femmes dans le traitement de l'image, c'est qu'on demande, enfin, résultat égal, on va parler de deux hommes. De la même manière, à résultat égal, si une femme est plus jolie qu'une autre, elle sera plus médiatisée. Ouais. Ça, c'est quand même pas sympa, quoi. C'est juste, c'est un critère super subjectif et qui est vraiment, vraiment marqué chez les sportives. Et c'est pas
tu cool. L'as ressenti, toi, en carrière ?
Ben non, parce que nous, c'est pas un sport super sexy. Tu vois bien, on est habillé, on a un casque, des lunettes, des machins. Mais c'est vrai que dans certains sports, tu as des femmes extrêmement bien médiatisées juste parce qu'elles sont jolies. Ouais. Et bah, logiquement non.
Ouais.
Tu vois.
Ah, oui, complètement.
Logiquement non. Ça nous viendrait pas à l'idée d'avoir un sportif classé, je sais pas, le 123e tennisman qui va faire une couve parce qu'il a un bon cul, ouais, quoi. Bien. Tu vois. Enfin, ça nous paraîtrait super bizarre.
C'est clair. Bah ouais, bien sûr, bah là tout le monde s'offusquerait en disant mais qu'est-ce qu'il leur a pris, c'est des fous, alors que c'est ce qui se passe depuis des années pour des femmes et personne ne s'en est maintenant, si c'est plus compliqué, enfin c'est plus possible de le
c'est
faire
plus compliqué,
mais en tout cas ça a été fait pendant des années sans que personne s'en offusque et en tout cas que personne se dise que c'était pas normal, en fait. Mais
ouais. Ou tu vois une nana qui va pas faire la couve parce que ben elle rentre pas dans les critères esthétiques du moment, malgré des titres et des titres et des titres. C'est pas cool non plus, enfin tu vois, moi je trouve que là il y a une vraie différence de traitement. Ouais, absolument.
Et toi qui es maman, tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais de ta fille, je crois d'ailleurs que ce qui est assez atypique dans le milieu, c'est que t'as eu ta fille même avant ta carrière en ski cross.
Je l'ai eu entre l'alpin et le ski cross, ouais.
Donc, tu as fait quasiment, on va dire, toute une deuxième carrière en ski cross où tu étais déjà maman. Est-ce que ça... Comment on gère ça ? Est-ce que ta fille venait avec toi ? Est-ce que, du coup... est-ce que, d'ailleurs, elle fait du ski alpin ou du ski cross ?
Alors, on gère pas seul, hein. Heureusement, déjà, bah, son papa me soutenait et puis a accepté, faisait partie complètement du projet. Il y a aussi les mamies qui ont été bien mises, qui ont été bien sollicitées, mon papa aussi. Donc, c'est vrai que, tu vois, il y avait toute la famille, en fait, qui servait un petit peu de... de team autour de ma fille pour pallier quand j'étais pas là. Après, quand je rentrais, moi, l'avantage, c'est que je pouvais, je calais mes entraînements sur ses heures d'école, des choses comme ça. Et donc, quand j'étais là, j'étais vraiment là pour elle. Et par contre, quand j'étais pas là, j'étais vraiment pas là, parce que j'étais à l'autre bout de la planète et on se faisait des Skype. Est-ce que je l'emmenais? Pas spécialement, parce que malgré tout, le ski cross, c'est un sport assez exposé. Et que je voulais, en tout cas, tant qu'elle était petite, hein, je voulais pas qu'elle voie sa maman partir en barquette, être récupérée par l'équipe. Enfin, tu vois, je voulais pas qu'elle vive ce genre de moment. Mais par contre, elle m'accompagnait souvent sur des rencontres, des promos, tu vois, des trucs comme ça assez sympas sur les fins de saison. Et puis quand elle a été quand même assez grande, à ce moment-là, oui, elle est venue notamment sur des Coupes du Monde, mais notamment aux X Games, ouais. Tu vois, et là, ça a été vraiment des super souvenirs pour elle. Je l'ai jamais poussée à faire du ski cross. Bon, habitant la station avec son papa, on était d'accord pour dire que il fallait qu'elle ait un certain niveau de ski pour au moins avoir le BE de ski alpin habitant en montagne. On trouvait que c'était normal en fait de profiter de ça, mais on l'a jamais poussée vers la compète. C'est elle qui a décidé justement de se lancer dans le ski cross. D'accord. J'ai trouvé ça hyper courageux parce que nous, c'est un microcosme. On se ressemble assez, on a exactement la même voix, je lui passais du matos, donc c'était un peu un mini moi, tu vois. Et je trouvais ça hyper glissant, hyper dangereux. Les gens, encore une fois, plein de bienveillance, mais qui étaient vraiment à dire « Oh là là, mais t'es le sosie de ta maman, nanana, nanana ». Donc je trouvais ça super casse-gueule et on en a souvent parlé. Et malgré tout ça, en fait, elle a vraiment développé sa propre personnalité. Et c'est une petite jeune fille... unique hein, comme tout le monde, mais hyper forte et hyper forte aussi parce qu'elle a eu une trajectoire compliquée. Elle s'est fait 3 fois le genou, 3 fois de suite, à l'âge de 16, 17 et 18 ans, donc vraiment une période charnière dans une carrière sportive. Et l'âge où normalement tu rêves en grand et tu te projettes vers l'avenir, etc., ben, ma fille Lilou a dû, si tu veux, se réinventer, enterrer un rêve qu'elle avait. Et je trouvais l'exercice vraiment dur. Moi, ça m'a brisé le cœur. Mais ça a fait d'elle la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te dis, je la trouve très, très forte. Parce qu'elle s'est réinventée. Elle est pétillante. Elle est solaire. Elle est lumineuse. Elle est donc prof de ski. Elle est prof de planche à voile aussi et de wing foil. Et elle a la passion de la pédagogie, de la transmission. Et elle est rigolote, quoi.
c'est marrant parce qu'on a quand même l'impression souvent que, alors, pas toujours dans tous les cas, mais en tout cas, ça se justifie souvent, ça s'observe souvent, c'est que quand les parents sont sportifs professionnels, souvent les enfants, quand même, derrière, suivent peu ou prou la même voie.
Oui, bah nous, en plus, si tu veux, il y a vraiment une histoire de territoire, hein, de géographie. C'est vrai que tu habites en montagne, il y a quand même des chances que tu sois sur de la neige ou de la glace. Hein, tu vois, et on aurait habité au bord de mer, elle aurait été sûrement sur l'eau. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent les traces des parents. Moi, je trouve ça très courageux, honnêtement. Après, bon, bah, si c'est leur passion, ben voilà, faut y aller. Moi, je suis fille de basketteur. Le basket, et tout le monde me disait, ah, tu vas faire du basket comme papa. Ben, j'ai tout fait sauf du basket. Mais bon, après, c'était peut-être pas ma passion non plus. Ça aurait été ma passion, je l'aurais fait comme papa. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et ça me saoulait qu'on me dise ça. Mais à un point...
C'est aussi peut-être pour ça que t'as eu peur que ta fille se lance dans la même discipline que toi.
Ouais, exactement. Ça, c'était ma lecture. Et t'as raison, j'avais peur pour elle. Mais en fait, elle n'y a pas du tout vu un inconvénient. Encore une fois, c'était sa route. Et elle l'a suivie, quoi. Et justement, ça, c'était vraiment quelque chose que je lui ai souvent répété. Toute petite, je lui disais, tu sais, tu es unique et merveilleuse et tu ne dois suivre la trace de personne. Ni celle de papa, ni la mienne. Tu vois, il faut que ce soit ton chemin à toi. Ça, je trouvais que c'était important parce que bah, pour s'épanouir, pour être soi, quoi, ne pas porter de masque. Je trouve que c'est la première chose à faire si on veut essayer d'être heureux quand même.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et bon, et pour revenir, pour clôturer un petit peu du coup cette interview, on fait un petit focus forcément sur les jeux aussi pour clôturer. À ton avis, donc là, il n'y a que deux jours qui sont passés. Toi, comment tu les sens, ces jeux-là, globalement, pour la délégation française ? Et deux questions en une, un peu différent. Une première question vraiment centrée sur les jeux, et deuxième question, comment tu vois aussi l'avenir du ski français ?
Alors, je trouve qu'on a une très, très belle équipe. Tant sur la neige que sur la glace. Ce que je trouve dommage, c'est que pour l'instant, alors, on a de belles médailles d'argent à l'heure à laquelle on se parle, mais je trouve que on aurait pu en avoir une ou deux supplémentaires, vraiment. Ouais. Et puis, mais je trouve que au-delà d'un chiffre qui certes, est un peu la colonne vertébrale puisque c'est la quête de médailles quand on va au jeu. Je trouve que ce que dégage et inspire et incarne notre équipe de France olympique, je la trouve trop belle. Enfin, franchement, je trouve qu'on a des super champions. Justement, il y a transgénérationnel, transdisciplinaire. On a vraiment des belles personnes qui portent nos couleurs et ça, c'est la classe, vraiment la classe. Et l'avenir du ski, déjà le ski a pris cher quand même avec la fermeture des stations l'année dernière. Ça a été quand même un gros coup. Par contre, on voit cette année que les gens répondent présents. On est full, archi full. Et ça fait du bien. Ça prouve que les Français aiment les sports d'hiver, aiment venir à la montagne, aiment vivre cette parenthèse blanche en fait dans l'année. Et ça, tu sais, c'est un peu une déclaration d'amour. Nous, on la reçoit, ça nous réchauffe le cœur. Après, évidemment, si on regarde plus loin, on a à remodeler, je pense, notre manière de vivre la montagne parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Il y a un réchauffement climatique. Il y a des saisons d'hiver qui vont être plus courtes, de la neige qui va être moins présente. Mais franchement, la montagne, c'est beau toute l'année. À nous de le montrer, à nous de le faire découvrir. Et puis, à nous aussi d'inspirer les petits à venir dans les clubs, à se lancer dans cette aventure de la compétition, redonner des lettres de noblesse à la compétition. L'adversité, c'est pas écraser les autres pour avoir soit la tête qui sort de l'eau, c'est s'appuyer sur les autres parce qu'ils nous viennent nous titiller, ils nous obligent à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est grâce à ces adversaires que on arrive à être une meilleure version de nous-mêmes et on doit beaucoup à cet esprit-là de compétition. Et voilà, moi, je milite pour ça. C'est sain, la compétition. Et ça nous aide à grandir bien. Voilà.
Et une dernière question pour clôturer ce petit entretien. Le podcast s'appelle Championne du monde. On demande à toutes nos invitées quelle est leur définition d'une championne.
Waouh, ça peut être super, super vaste, mais je crois qu'une championne, ça va être quelqu'un qui ne triche pas, dans le sens où elle assume complètement qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et elle l'a fait avec générosité et excellence. Et une championne, en fait, c'est un peu quelqu'un qui va transmettre un flambeau à la génération suivante et qui peut être là pour inspirer et servir un peu de rôle modèle.
Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et je suis ravie qu'on ait pu échanger. Et en tout cas, on t'écoutera avec passion sur, sur les deux semaines restantes en espérant qu'il y ait encore plein de jolies médailles pour la France. Mais j'en doute pas, j'espère que ça va arriver encore plus que ce qu'on a déjà.
Ouais.
et merci beaucoup à toi et écoute, peut-être à bientôt.
Avec plaisir Cléo, merci à toi.
Merci beaucoup. Ciao, ciao. Philippe.
Si
cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.